Alors, j'espère que vous êtes en forme pour cette quatrième séance de la série consacrée à l'Extrême-Orient. Vous savez que l'idée était de regarder cinq œuvres différentes. On en est donc aujourd'hui à la quatrième. Alors, je passe très vite sur nos petites règles habituelles que j'ai eu l'occasion de commenter hier. Vous étiez déjà là, on n'y revient pas. Je vous rappelle simplement, surtout pour ceux qui n'ont pas pu être à la séance de lundi, que dans les séances précédentes, justement, nous avons d'abord travaillé à partir de l'œuvre que vous voyez là, une œuvre khmer, autrement dit cambodgienne. C'est le Cambodge qui a été l'objet de notre première séance. Je rappelle qu'il s'agissait d'un aimant de la balustrade d'une des chaussées du temple de Prekan, construit au XIIIe siècle. Et ça a été l'occasion pour nous d'évoquer la question de la sculpture monumentale, en l'occurrence dans la culture khmer, au Cambodge. Ensuite, dans une deuxième séance, vous vous en souvenez, nous avions eu l'occasion, à partir de toute une série de sculptures qui proviennent du Pakistan, et précisément de la vallée du Gandhara, d'évoquer à travers ce qu'on appelle l'art gréco-bouddhique, c'est-à-dire ces œuvres réalisées à la fin de l'Antiquité, autour du 1er siècle, voir donc toute une série d'œuvres, et en particulier celle-ci, qui était l'objet de cette deuxième séance, et qui évoque la vie de Bouddha. Cette deuxième séance était donc l'occasion de se familiariser avec ce qu'on appelle l'art du Gandhara, l'art gréco-bouddhique, mais également avec, je dirais, la légende, entre guillemets, bouddhique, et puis toute une série d'éléments, de symboles qui sont liés à cela, la gestuelle des mains en particulier. La troisième séance, il y a quelques jours, a vu pour but, à partir de cette œuvre qui est cette fois chinoise, le Cambodge, le Pakistan, la Chine, vous voyez qu'on a pas mal parcouru, c'est l'Extrême-Orient. Il s'agit cette fois s'intéresser à un type de figure que l'on retrouve dans beaucoup de pays d'Extrême-Orient. Vous savez que cette science nous a permis d'aller à la fois en Chine, bien sûr, mais aussi au Tibet, en Corée, au Japon. Et on a évoqué ces figures qu'on appelle les Wuhan, mais qu'on appelle aussi les...
Arates.
Voilà, les Arates, et qui sont donc des figures de, on va dire, saints, entre guillemets, personnages, disciples de Bouddha, disciples contemporains ou plus tardifs de lui. Et c'est donc cette sculpture chinoise de la culture Liao, du début du XIIe siècle, du XIIIe siècle, nous avait permis d'évoquer cette question. Aujourd'hui, on va aller vers un sujet tout à fait différent, tout à fait autre. Mais encore une fois, c'est le but de ces séances, non pas de travailler sur un sujet qu'on essaie d'aborder complètement, mais de composer une sorte de patchwork qui, mine de rien, va nous permettre quand même de mieux comprendre ces cultures et ces arts de l'Extrême-Orient. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous travaillions sur cette œuvre-là. Voilà l'œuvre à partir de laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Alors, on va commencer, et vous savez que nous avons une petite méthode dans nos ateliers qui consiste à regarder en premier, quand on découvre une œuvre, comment matériellement elle se présente. Par parenthèse, les photos sont meilleures qu'hier. Et heureusement, parce qu'autrement, ça serait plus compliqué. Donc, qu'est-ce que c'est que cette œuvre matériellement, hein, on ne va pas commencer par voir ce que ça représente ou autre. Voyons déjà matériellement de quoi il s'agit. C'est quoi, physiquement, cet objet que vous avez sous les yeux ?
Papier.
Tissu.
Mosaïque.
Tissu.
Vitrail.
Mosaïque. Alors, si je comprends bien, soit on aurait une mosaïque, alors une mosaïque murale, une mosaïque de sol, parce que on a vu dans la mosaïque il y a quelques années.
Une
mosaïque murale.
Ouais.
Donc quelque chose qui est fait pour être mis sur un mur.
Oui, mais c'est le sommet d'une lampe, il y a un bout de bois là au milieu, non ?
Alors là, il y aurait un bout de bois ici.
Oui,
maintenant ?
Mais
oui.
Je sais pas. Enfin, je sais, mais je ne vais pas vous le dire. Pas tout de suite, en tout cas.
Il y a un trou aussi.
Il y a un trou.
Il y a un trou.
Ouais. Il y a un trou. Alors.
Ça ne me semble pas être une mosaïque. Non, c'est du papier.
Donc, si
tissu, peut-être.
Voilà, si je résume vos avis, pour certains d'entre vous, on est là dans quelque chose qui est, je vais dire, du dur, hein, une mosaïque, soit de sol, soit plutôt murale, bon, soit devant une œuvre plus, j'allais dire, légère, entre guillemets, hein, qui serait soit en papier, soit en tissu, c'est
oui,
ça
ou en tissu, oui.
En tissu. Bon, on va voir ce qu'il en est.
Ok. Un problème de conservation.
Ah, tout à fait. Oui, oui. Absolument. Donc, quelque chose de plus fragile qu'une mosaïque, effectivement, si c'est le cas. Hein. Ouais. Vous donneriez quelle taille à cet objet?
Vingtaine de centimètres,
quelque chose comme ça?
Ou ouais, un peu plus grand.
Un peu plus.
Oui, 50-60.
50-60 centimètres. Une pièce comme ça, à peu près. Hein. Ok. Alors, on va voir ce qu'il en est précisément, mais maintenant qu'on s'est interrogé sur cet objet, est-ce que vous avez une idée, globalement, là, en gros, d'une date? Je ne vous demande pas une année, hein, bien sûr, on n'a pas, mais globalement, une date, et vers quelle période on pourrait se trouver?
Dixième siècle.
Dixième?
C'est vachement bien conservé, donc ça ne doit pas être si vieux, hein.
Donc soit autour du Xe siècle, soit au contraire quelque chose de relativement tardif, je ne sais pas, 19e par exemple, 20e,
avant,
18, 19e, allez. On va faire un prix de gros.
Ce qui est surprenant, c'est la symétrie de...
Une œuvre très symétrique. Alors justement, ça nous permet peut-être là maintenant de passer, maintenant qu'on a essayé de voir un peu... de quelle période pouvait être cet objet et en quelle matière il était, est-ce qu'on peut effectivement voir de quoi il s'agit, enfin, ce que ça représente? Vous insistez d'abord sur le côté très symétrique des représentations.
Ouais.
C'est vrai, hein, c'est tout à fait symétrique. Ce qui est à droite se retrouve à gauche en miroir, on pourrait dire. C'est vrai. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est représenté?
Des animaux,
une entrée. Bon. Qu'est-ce que... Alors, commençons par les animaux. Qu'est-ce que vous voyez comme animaux?
Des lions.
Un lion. Alors, un lion ou des lions, puisqu'en effet, le lion qui est à droite ou à gauche, se retrouve en face. Hein. Donc, lion, ok.
Dragon.
Il y a des dragons en bas.
Dragon. C'est ça?
Rouge.
Voilà. Là, vous voyez effectivement un dragon avec deux yeux, une espèce de grande bouche, une sorte de crête. Voilà ses écailles. Hein. Donc, il y a un dragon. On a évidemment le parallèle de l'autre côté. Donc, dragon, lion. Qu'est-ce que l'on voit d'autre?
Deux personnages armés.
Ouais.
Avec des boucliers.
Une espèce de guerrier avec des boucliers. Ouais. Ok.
Et tout à fait en haut, des papillons noirs.
Tout à fait en haut, il y a des espèces de papillons
noirs.
Noirs. Je ne sais pas, c'est pas des.
Chauves-souris?
Non, ce n'est pas des chauves-souris. On ne sait pas des chauves-souris. En tout cas, des êtres volants, nous allons dire. Il y en a d'ailleurs d'autres là. Hein.
Ouais. Hein. On dirait qu'il y a un masque au milieu.
Ici?
Le rouge, oui.
Oui, il y a une espèce de masque ici, de choses qui ressemblent à une
forme. Mais ce n'est pas quelque chose qui se refermerait, qui s'ouvrirait?
Alors non, mais c'est vrai qu'on peut y penser, parce qu'il y a ce côté tellement symétrique qu'on y pense, effectivement. Voilà. Mais ça ne s'ouvre pas, ça ne se ferme pas.
C'est pas un chasse-mouche encore.
C'est vrai que ça y ressemble. C'est avant-hier hein, qu'on a vu beaucoup de chasse-mouches, mais non, c'est pas un chasse-mouche. C'est vrai que ça y fait un peu penser par la forme.
Oui,
hein.
Oui.
Alors, et puis si ça fait 20 cm, ça pourrait être. Hein. Il y a quand même une raison qui fait que ça n'en est pas un. Alors, vous avez bien parlé des lions, dragons, de ces animaux à ailes qu'il y a là. Il y en a peut-être d'autres. Par exemple, là, je me demande s'il n'y a pas des espèces de petites souris ou rats, vous voyez, ici, qui montent sur le...
Ah, c'est pas des poissons.
Non, je pense que c'est plutôt
dans les arbres, c'est
des petits... des petits mammifères. Hein. Alors, vous avez parlé également de ces espèces de médaillons centrales qui ressemblent à une espèce de masque, pourrait-on dire. Hein.
Ouais.
Ok. Il y a peut-être encore deux éléments dont vous n'avez pas trop parlé.
C'est une entrée
avec un escalier.
Alors voilà, vous avez parlé des deux personnages en bas, effectivement, mais là, il y a une entrée avec une sorte d'escalier, avec des colonnes. Une sorte d'entrée.
Avec une sorte de fronton aussi.
Un genre de fronton. Hein. C'est une espèce de porte monumentale, pourrait-on dire. Hein. Ok. D'accord. Et puis, enfin, peut-être un dernier élément que vous avez, qu'on a un peu suggéré, mais sans jamais le citer vraiment.
Il y a un arbre.
Voilà. Une espèce de grand arbre. Hein. C'est-à-dire qu'à l'arrière, semble-t-il... derrière la porte, hein, parce que autrement il y aurait le tronc, quoi. Hein, ouais. On voit une espèce d'arbre qui se développe dans la partie supérieure. Dans les rames mûres de l'arbre, il y a visiblement toute une série de petits animaux. Hein, on a vu ces petites souris ou rats, je ne sais pas, ici et là, bien. Ok. Alors, maintenant que vous avez bien décrypté ce dont il s'agit, vous avez bien fait l'inventaire de ce que l'on voyait, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette représentation? Une porte...
L'entrée d'un temple.
Pardon?
L'entrée d'un temple.
Ça fait penser à l'entrée d'un temple, oui.
Avec les deux gardiens.
Avec deux gardiens, donc les deux personnages-là seraient les gardiens.
Ouais.
Qui gardent quoi, en fait?
Le temple.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'on voit que c'est des gardiens?
Ils sont armés.
Est-ce qu'ils ne sont que armés, si j'ose dire?
Ils n'ont pas l'air très sympathiques.
Hein. Ils sont, vous le voyez, ils ont une espèce de dents, des gros nez. Enfin, voilà, c'est des personnages qui ont l'air farouches. Hein. On n'a pas trop intérêt à passer par là, semble-t-il. Hein. Voilà.
Du moins tranquillement.
Voilà. C'est ça. Donc on sent qu'on a là une entrée qui est effectivement gardée par deux personnages. Cette entrée, vous disiez, c'est peut-être l'entrée d'un temple. Est-ce que c'est la seule possibilité?
Non, ça peut être l'entrée de l'enfer ou je ne sais pas quoi, du paradis, enfin, de la mort.
Oui, sans doute au-delà, alors peut-être, vous pensez. Hein, ok. Alors, c'est, pardon.
D'un palais,
oui. Qu'est-ce que suggérait justement, pour essayer de comprendre quel est ce dont on entre, qu'est-ce que suggérait le reste de la représentation?
Quelque chose plutôt positif.
Pardon?
Plutôt positif derrière.
Oui, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plutôt positif?
L'arbre,
il y a
l'arbre.
L'arbre.
Il y a des animaux.
Des animaux.
Les deux dragons,
ils sont là. À votre avis, leur rôle, c'est quoi?
Ils sont gentils, hein, ils sourient.
Alors, voilà. Vous savez que le dragon, en Orient, le dragon, c'est quoi?
C'est un protecteur.
Voilà. Le dragon en Orient, est, enfin, il peut, quelquefois, ne pas être très sympathique, hein, mais il peut aussi être protecteur. Hein. Le dragon en Orient est beaucoup plus ambivalent et beaucoup plus favorable qu'en Occident. En Occident, le dragon, il est méchant. Hein, voilà, on le tue. Bon. En Orient, c'est pas comme ça. Donc, le dragon, ici, un peu comme ces deux personnages, d'ailleurs. Hein, ces deux personnages, ils sont gentils pour vous si vous êtes gentils, ils seront méchants pour vous si vous êtes méchants. Les dragons, c'est pareil. Hein. Si vous êtes sympathique, ils vous laisseront entrer. Si vous n'êtes pas sympathique, ils vont vous manger. Hein, voilà. Donc, les dragons, ils participent un peu d'une sorte de protection qu'assurent aussi les deux gardiens qui sont à l'entrée. Hein. Donc, vous avez raison, ce qui va se passer derrière la porte est peut-être, effectivement, tout à fait sympathique. Et ce que l'on voit dans la partie supérieure de cet objet, les animaux, l'arbre, etc., semble être d'assez bon augure. On a l'impression... Pardon.
Un jardin.
Voilà, une sorte de jardin. Une sorte de jardin qui pourrait évoquer quoi aussi?
Paradis.
Voilà, une sorte de jardin, un paradis. Donc, ce serait peut-être pas tant l'entrée dans un temple au sens strict du terme, peut-être pas non plus l'entrée dans l'au-delà ou dans un lieu infernal, ou du moins si c'est l'au-delà, c'est un au-delà plutôt favorable, un au-delà qui est l'au-delà paradisiaque, si vous voulez. Hein. En tout cas, vous avez bien compris, vous avez bien vu. C'est bien parce que c'est le but d'ailleurs. Cet objet est quelque chose qui nous fait rentrer dans un univers, finalement. Hein, c'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui montre bien, quand on voit cet objet, qu'on va rentrer dans quelque chose, et dans quelque chose qui, a priori, est plutôt beau, favorable, étonnant. Enfin, en tout cas, il va se passer quelque chose qui n'est pas forcément terrible. Hein, voilà. OK. Cet objet que vous voyez là, à quoi pouvait-il servir, à votre avis? Parce que vous en avez bien analysé la représentation, mais à quoi ça sert?
Dans une procession.
Dans une procession.
Oui, parce qu'on a une espèce de manière derrière.
Voilà, alors vous parliez effectivement, d'ailleurs vous en parliez aussi tout à l'heure, peut-être de ça, non?
Oui, c'est hein?
Parce que là, c'est ce qui fait que, dès le départ, ça, on dit mosaïque, bof. Tout le monde n'était pas trop d'accord sur cette question de mosaïque, justement du fait de cet élément en bois, effectivement, hein, qui est au centre. Hein. C'est ce qui vous fait dire peut-être que c'est une bannière, hein, quelque chose qu'on tient au départ d'une procession. Hein. Donc on aurait là un élément de procession. Ça vous va, ça ?
Oui, mais ça explique pas le trou.
Oui.
Surtout qu'il
n'y
en a qu'un.
Il n'y en a qu'un, oui. Un trou là, il n'y en a pas là.
On pourrait imaginer quelqu'un derrière.
Ouais.
Mais
il y a un trou. Alors, ce trou, à votre avis, pourquoi ?
Il était abîmé.
C'est peut-être tout simplement abîmé, effectivement. Hein. Et pourquoi c'est abîmé ? Alors, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez même de conservation. Vous disiez, c'est fragile, parce que c'est peut-être du papier, du tissu.
Ouais.
Donc, c'est fragile. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un trou, quoi. Ça veut dire, quand on fait une procession comme ça, même si c'est fragile, on fait attention, quoi. Enfin, ça se coupe.
Si c'est abîmé, c'est bien rond, quand même.
Oui, c'est très rond, oui. Ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est un peu, quand on est plus près, on voit que c'est un rond un peu, pas très rond, quoi, mais quand même, c'est vraiment circulaire, quoi. Hein. Ouais.
Intentionnel, quoi.
Ouais. Intentionnel, je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt accidentel.
Ah bon?
Ouais, je pense pas que ce soit volontaire. Hein. Je crois pas du tout que ce soit un trou volontaire. Je pense que c'est plutôt un trou accidentel. On pourra comprendre tout à l'heure pourquoi, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je pense que c'est un trou accidentel. Autrement dit, si on revient sur la première question, c'est-à-dire le côté matériel de cette œuvre, on est peut-être plutôt, effectivement, devant la première solution que la deuxième. C'est-à-dire plutôt devant un objet en tissu ou en papier qu'un objet en mosaïque, quoi. Mosaïque, c'est alors, je sais bien que ça peut s'abîmer, il y a de mosaïque abîmée, hein. Enfin, a priori, vous n'auriez pas un trou comme ça, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein ?
Ça pourrait pas être un truc de marionnette.
Pardon ?
Ça pourrait pas être un objet des marionnettes.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, peut-être pour aller à la guerre, au combat, non ?
Ah, une bannière aussi, donc quelque chose qui serait...
Hein.
Donc on a un peu deux idées dans ce que vous dites. Soit une marionnette... soit une bannière. Alors, une bannière processionnelle, religieuse, soit une bannière, on va dire, guerrière. Hein. D'où le tronc, pam, il y a un coup de feu. Ah, les armes à feu, en Orient, c'est ancien déjà. Hein. En Occident aussi, d'ailleurs, hein, 15e siècle, après tout. Hein. Voilà. Bien. Alors, vous avez deux propositions. Une proposition, on est devant une bannière, donc guerrière, ou bien devant une marionnette. Hein.
Ouais, je sais pas, ça m'a fait penser.
Oui, oui, non, mais pourquoi pas, on est là pour tout se dire. Hein. Alors, on peut dire tout. Hein, pardon.
Un théâtre.
Donc ce sera l'élément d'un théâtre. Hein.
En Asie, il y en a pas mal.
En Asie, il y en a pas mal, effectivement. Hein. Alors, je sais pas, vous en pensez quoi ?
C'est pas le guerrier, quand même.
Pardon ?
Ce qui est représenté, ça donne pas une image très guerrière.
C'est pas très guerrier.
C'est pas très guerrier.
Non, c'est pas très guerrier, effectivement. Alors, ça dit qu'il y a des bannières pas trop guerrières. Hein. Mais il va souvent que sur les bannières, il y a plutôt des lions, des choses un peu. Ou alors très héraldiques. Hein. Oui, c'est-à-dire, on est en Orient, vous savez, c'est un peu différent de l'Occident, l'Orient, quand même. Hein. Mais vous avez raison, l'impression qui sort de ça, à part peut-être quand même les deux personnages du bas et les dragons, qui donnent quand même dans l'idée de. Comment dire, d'une certaine contondance. Hein. Mais à part ça, c'est vrai que tout ça n'est pas très, très guerrier. Hein. On n'a pas envie de se mobiliser pour aller bouter les Anglais hors de France, quand on voit ça. Hein. Enfin, je rigole en disant ça.
Ils se sont
boutés
en tout seul.
Voilà. voilà, donc oui, donc vous disiez que ça fait pas très guerrier. Donc je sens derrière ça que l'idée de bannière militaire... Et peut-être pas celle que vous retiendriez en premier, si je comprends bien.
Ça pourrait être une barrière pour des processions religieuses.
Pour les processions religieuses, ça c'est possible, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait là-dedans cette espèce de porte hein, qu'on a vue qui donnait sur un au-delà plus ou moins paradisiaque. Ça nous amène déjà à quelque chose de plus mystique. Hein.
Il ne faut pas une sorte d'initiation pour comprendre.
Voilà, alors quelque chose d'un peu initiatique, vous avez raison. Il y a là quelque chose qui est, d'ailleurs on parle dessus depuis une demi-heure à peu près, hein, qui est un peu initiatique. Hein. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui demande quand même à être un peu lue, en quelque sorte. Hein. Donc il y a une dimension d'initiation. Alors, si je comprends bien, on abandonne plutôt la question de bannière militaire. On reste plutôt sur la question soit religieuse, soit marionnettiste, si j'ose dire. Hein. Théâtre. Hein.
Théâtre.
Alors, je ne sais pas, plutôt théâtre, plutôt religion.
On n'en sait rien.
Ah, mais on est là pour essayer de trouver.
Ça peut être un mélange des deux.
Alors voilà, pourquoi pas le mélange des deux. Est-ce que ça peut pas être et du théâtre et de la religion ?
Même au théâtre, il y a des conventions.
Et bien voilà. Peut-être, en fait, qu'on a effectivement là une œuvre qui mélange la question du théâtre et la question de la religion. Une œuvre qui serait théâtralo-religieuse ou religio-théâtrale. Hein. Et non seulement peut-être, mais c'est même ça. Ah. Vous êtes là devant, effectivement, ce qu'on pourrait appeler une marionnette. Donc c'est fait pour du théâtre. Mais une marionnette qui, effectivement, a une dimension religieuse. Hein. Donc, vous parliez d'initiation tout à l'heure, il y a de ça, initiation mystique, pourrait-on dire. Hein. Bien. Donc, voilà qui nous permet d'y voir quand même un petit peu plus clair. On est, en fait, devant une marionnette. Si on revient sur la question de la technique, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être en papier ou en tissu ? Puisque on avait abordé la question de la mosaïque. On sait maintenant que c'est une marionnette, qui a donc une dimension théâtrale, mais également religieuse. Et cette marionnette-là, est-ce qu'elle est, à votre avis, donc, vraiment en tissu ou en papier ?
On peut être en bois, en peau, en peau.
J'ai entendu autre chose. En carton. Hein. Voilà des matériaux peut-être un peu plus durs. Le bois, la peau, le carton, qui peut-être conviendrait mieux.
Hein. On a l'impression de quelque chose de plat, de mince.
On a l'impression de quelque chose de très mince.
Parce que le bois qui nécessite déjà... Les contreplaqués, ça n'existait peut-être pas tellement.
Oui. Et en plus, qu'est-ce qui, peut-être, ne va pas trop dans le sens du bois ? Le bois est une possibilité, hein, des marionnettes, oui, il y en a. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui, peut-être, ne plaide pas trop dans le sens du bois, si j'ose dire ?
Le poids.
Pardon ?
Le poids.
Alors, le poids, c'est vrai que le bois, c'est, on a dit que le bois pouvait faire 20 cm. À vrai dire, mais vous l'avez dit aussi, elle en fait plus. Hein. Elle fait effectivement une cinquantaine, soixantaine de centimètres. En bois, ça finit par être un peu lourd, quoi. Voilà. Bon, sauf si on retient 5 minutes.
Il hein. y a des plaques de bois qui sont bien épaisses.
C'est vrai.
Oui, ça peut être de l'écorce.
Ça peut être une sorte d'écorce. Ah, oui. Simplement, il y a quand même un truc qui ne plaide pas trop quand on voit l'œuvre sur une maillette en bois.
Le trou, il n'est pas très épais. Pas...
Voilà, le trou montre bien ce que vous disiez par ailleurs, c'est qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de pas épais du tout. Hein. On a effectivement là une œuvre très 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 fine. Hein. Très très fine. Alors, à moins d'avoir un contreplaqué vraiment impeccable et très résistant, ça va être un peu dur. D'autant que, mais il y a une autre chose qui me frappe dans cette œuvre.
Il est transparent.
Et ben voilà. C'est quand même transparent. Et transparent pourquoi ? Parce que c'est complètement découpé. Et que la lumière passe à travers. Ce que vous voyez là, c'est de la dentelle. C'est-à-dire que tout le blanc que vous voyez ici, c'est pas du blanc peint. C'est du blanc parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de matière. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord.
Okay ? C'est-à-dire que là où il y a de la matière, c'est coloré. Là où il n'y a pas de couleur, c'est qu'il n'y a plus de matière. C'est un trou. Ça n'est, si vous voulez, qu'un gros trou accidentelle parmi des milliers de petits trous volontaires qui ont percé la matière pour faire cette marionnette. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Autrement dit, vous avez là de la dentelle. C'est de la dentelle. Alors, le bois, pour faire un truc en dentelle comme ça, ouais. C'est pas impossible. Et pas génial, quand même. Hein. Pas simple. Hein. Autrement dit, on se dirige plutôt vers les deux autres solutions que vous évoquiez. C'est-à-dire, alors, tissu, je crains que ça...
C'est quand même rigide.
Pardon ?
Ça donne l'impression d'être quand même quelque chose.
C'est très rigide. C'est très rigide.
Donc, du cuir, ça flotterait.
Ben voilà. Donc, si c'était du tissu, on aurait un machin qui tomberait, quoi. Enfin, vous voyez, imaginez que je fasse une marionnette dans mon écharpe, j'ai beau la découper, on aurait un bazar, quoi. Enfin, vous ne voyez pas ça. Là, c'est quand même rigide. Si vous tenez la marionnette par là, ça tient. Et vous n'avez pas besoin... À part la hampe qui vous permet de la tenir, vous n'avez besoin de rien d'autre pour que la marionnette tienne, si vous voulez. Donc c'est rigide. Hein. Du tissu, ça ferait ça. Pas terrible comme marionnette. Hein. Autrement dit, on est plutôt devant les deux autres options que vous avez évoquées, carton ou peau. Hein. Et à vrai dire, c'est peau, enfin c'est cuir. C'est du cuir. Ce que vous voyez là, c'est du cuir. C'est, si vous voulez, une feuille de cuir tannée, plate, très fine. C'est le cuir tanné, c'est très dur. Hein.
Ouais.
Et c'est donc du cuir. Et comment est-ce qu'on a fait pour ciseler, j'allais dire?
Pas difficile. Avec des, l'équivalent d'un scalpel, quoi.
C'est ça. Des emporte-pièces, c'est ça. L'équivalent du scalpel. C'est-à-dire qu'avec des petits instruments très coupants et des emporte-pièces, tac, on arrive à créer cette espèce de dentelle-là. Et de fait, quand vous mettez cet objet devant la lumière, vous voyez ce que vous voyez là, hein, c'est-à-dire une dentelle de cuir. C'est donc assez léger, en même temps très rigide, assez solide, hein, plus que du carton, par exemple, ou du papier, ou du tissu. Hein. C'est très, très solide. Alors, il faut quand même y aller mollo, parce que de temps en temps, puisque c'est de la dentelle, si vous ne faites pas attention, bing, vous posez votre marionnette sur je ne sais pas quoi, ça vous fait un trou, parce que la dentelle, elle casse, quand même. Hein. Mais enfin, on est là, devant une espèce de feuille très rigide, assez dure, qui permettent de faire ce genre de pièce. Donc on est là, décidément, devant une marionnette avec une représentation liée aux religieux, pourrait-on dire, hein, on va y revenir, faite en cuir découpé. Hein. Vous savez comment d'ailleurs on appelle le papier découpé en Occident ?
Des
canivets. Hein. Lorsqu'on a, vous verrez ce genre de pièces. Hein.
Oui, c'est petit.
C'est petit, on a des grands et des petits. On pourrait dire que c'est une sorte de canivet de cuir, d'une certaine manière. Hein. Il y a fait quelque chose qui vraiment découpe une dentelle qui fait cette sorte de. Qui fait cette marionnette. Bien. Je ne sais plus quelle disposition suivante. Oui, voilà. Oh. Attendez, je voulais vous faire encore deviner quelque chose, mais vous l'avez lu.
Non, pas eu le temps.
Non, vous n'avez pas eu le temps, tant mieux. Au niveau de la date, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, certains voyaient une date très, 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 très ancienne. D'autres voyaient une date plus récente. C'est plutôt la dimension un peu tardive qui joue. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quand même là, même s'il y a un trou dans une œuvre en très bon état. Alors, le cuir peint. Ça tient, hein. Enfin, c'est quand même fragile, si vous voulez. On l'a vu, il y a un trou. Hein. Mais je ne sais pas si cette marionnette datée du Xe siècle, ça serait toujours dans cet état-là. Hein. D'ailleurs, en vous parlant, je m'aperçois que j'ai donné la réponse à une question que je voulais poser. Une chose qui est importante, c'est de voir que c'est peint aussi. Hein. C'est du cuir. Mais du cuir peint. Mais ça, je pense que vous l'aurez deviné par vous-même.
Hein. On pourrait par le dessin.
Voilà.
Peut-être qu'on peint déjà en partie.
Je pense, oui.
Et puis après on découpe, et puis peut-être on fignole les ombres, les nuances.
Oui, en reprenant avec des petits traits, par exemple. Oui. Hein. Et est-ce que vous avez une idée maintenant, puisque c'est une œuvre qui date précisément de la fin du 19e siècle, hein,
ah oui.
Voilà. Est-ce que vous avez une idée de... Vous l'avez peut-être lu encore une fois sur la diapo, vous n'avez peut-être pas eu le temps. Est-ce que vous... Pardon ?
Oui.
Vous avez eu le temps de lire ? Alors, ceux qui ont le temps de lire, disent rien. Hein.
Ceux,
qui ont... bon. Ceux qui n'ont pas eu le temps vont s'exprimer. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit d'où ça vient ? Il y en a une qui a une idée, mais peut-être pas les autres.
Une partie chinoise, mais...
La Chine ? Moi, je dirais la Chine.
Chine ?
Ou Vietnam,
ouais. Alors, notez qu'en Chine, il y a un art de la marionnette et qui est fait avec des techniques très identiques, très proches. Sauf que ça, c'est pas la Chine, mais on trouverait en Chine des marionnettes en cuir, plat, comme ça, découpées. Pardon ?
Elles sont plutôt en ombre.
Oui, mais ça, à votre avis, c'est des marionnettes qui sont faites pour être vues en ombre ou pas ?
Mais non, parce que
donc non.
Pas non.
C'est des marionnettes qui sont faites pour être vues, mais pas en ombre. Ouais. Pas en plus loin ombre. Pas nombre.
Hein.
Donc c'est pas des marionnettes d'ombre, autrement dit. Parce qu'elles sont peintes, c'est coloré.
Ouais.
Si c'était marionnettes d'ombre, c'est pas coloré. On est d'accord ?
Ouais. Okay. Non, et puis comme c'est de la dentelle, est-ce qu'il n'y aurait pas de la lumière derrière ? Ça fasse un peu photophore, quoi.
Je vois pas ce que tu veux dire là.
Projeter de la lumière par derrière.
C'est ça. Alors oui, voilà. Ouais. Mais justement, puisque c'est découpé et dentelé, en projetant la lumière derrière, ça pourrait faire une ombre dentelée, non ?
Oui.
c'est l'arbitre en valeur.
C'est ça.
Ça voilà. Mettrait le motif en
valeur. Ah, mais donc ce que tu disais, c'était plutôt pour dire que c'est une marionnette d'ombre.
Ouais.
Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, pour certains ou certaines d'entre vous, il s'agit pas du tout d'une marionnette d'ombre parce qu'elle est ornée de couleurs, et que c'est une marionnette d'ombre, c'est pas la peine d'avoir des couleurs parce qu'on ne les verrait pas.
Ouais.
Non, on ne voit pas les couleurs. Mais pour d'autres, c'est quand même une marionnette d'ombre parce que c'est découpé et que le fait d'avoir une source lumineuse à l'arrière permettrait justement de voir cette découpe virtuose. Hein. Mmh. Ben, on verra ce qu'il en est tout à l'heure. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une marionnette d'ombre qui est faite pour être vue en noir et blanc, hein, derrière un drap finalement, hein. Ou bien est-ce que c'est une marionnette qui est faite puisqu'elle est colorée pour ne pas être une marionnette d'ombre, pour être vue telle qu'elle, simplement elle est découpée parce que c'est plus joli, ben, on verra ce qu'il en est.
Elle peut être utilisée de deux façons aussi.
Ah, elle peut être utilisée de deux façons. Donc, ce serait une marionnette et d'ombre et de pas ombre.
Ouais.
Hein? Ok, ben écoutez, on verra quelle est l'option. Hein? D'accord? Oui, alors, une idée du territoire, Chine, vous disiez. On a vu que c'était pas la Chine parce que c'est pas la Chine, mais qu'en Chine, il y a un type de terre de marionnette assez proche de celui-là. D'ailleurs, dans tout l'Extrême-Orient, hein, et même dans tout l'Orient.
Moi j'en ai vu au Vietnam, j'en ai vu en Thaïlande, j'en ai vu au Cambodge.
Absolument. Il y a dans tout le sud-est asiatique. Dans tout le sud-est asiatique, il y a ça. Il y en a aussi au Japon. Mais il y en a aussi dans tout le Proche et Moyen-Orient. En fait, ça commence dès la Turquie. Hein. En Turquie, il y a tout un théâtre de marionnettes en cuir, comme ça, plat. Hein. En fait, c'est quelque chose qui embrasse tout l'Orient. En Égypte aussi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un type de technique pour le théâtre de marionnettes qui est en fait très très répandu dans le monde, et en particulier dans tout le continent asiatique, du Proche-Orient jusqu'à l'Extrême-Orient. Donc on est là devant une technique qui, voilà, et je dirais assez commune dans tout le continent. Hein. Bien. Alors, bon, je ne vais pas vous faire marner davantage, autant que j'ai passé un peu par erreur à la diapositive tout à l'heure, mais c'est une œuvre qui vient de Java.
Java,
ça appartient à quel pays ?
L'Indonésie.
Hein. Alors l'Indonésie, vous me dites en deux mots peut-être où c'est, où ça se trouve, ce que c'est. Voilà, c'est effectivement au sud de la péninsule indochinoise. Hein. Hein, je vous montre une carte tout à l'heure, mais l'Indonésie, c'est cet archipel qui est fait de centaines d'îles. Hein, je regardais encore ce matin, je crois qu'il y a presque 1000 îles différentes en Indonésie, hein, dont la plupart, pas toutes, sont habitées. Donc c'est énorme, c'est une espèce de poussière d'îles, enfin des grosses et petites îles. Hein, et ça forme une république, voilà. Et ça se situe effectivement au sud de la péninsule indochinoise. Hein, voilà. Alors, regardons d'un petit peu plus près cette œuvre. Voilà l'œuvre en question avec sa légende. Cette œuvre-là représente ce qu'on appelle un Gununggam. Le Gununggam, c'est cette œuvre-là qui, vous le voyez, dans un théâtre à Java, figure cette porte du paradis, appelons-la plus ou moins comme ça, hein, ouvrant sur une sorte d'arbre. C'est l'arbre dans les cultures du monde, hein, c'est évidemment très riche de sens, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre du paradis, c'est tout ce que l'on veut. Hein. Eh bien, cette marionnette entrée-arbre, pourrais-je dire, s'appelle le Gununggam. Hein, et le théâtre, puisqu'on a bien vu que c'est une marionnette, hein, le théâtre auquel appartient cette marionnette, on appelle ça le Wayang Kulit. Alors, vous parlez tous javanais, vous allez me traduire ça. Pas de problème. Hein. Mais puisque vous êtes tous très modestes, vous n'allez pas vouloir traduire pour pas que quelqu'un se mette en avant quelqu'un d'autre, hein, j'ai bien compris. Alors, Wayang Kulit, ça veut dire Kulit cuir. Ça ne t'étonnera pas, ces marines sont en cuir. Mais Wayang, ça veut dire ombre.
Ah, d'accord.
Donc, c'est bien un théâtre d'ombre. C'est de l'ombre en cuir. Hein, Wayang Kulit. Mais il y a un mais que je vous réserve pour tout à l'heure. Hein. Donc, ce type de théâtre javanais, extrêmement développé, qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire une pratique qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Le Wayang Kulit est un théâtre traditionnel javanais qui s'est développé à Java mais également à Bali, hein, qui est une île petite juste à côté de Java. J'ai peut-être mis d'ailleurs un petit peu plus loin une carte qui nous permettrait d'y voir clair. Avant, je voulais vous montrer ça, qui est simplement un petit montage qui permet de comprendre les étapes de la fabrication d'une marionnette. Alors, vous voyez à l'extrême droite une autre marionnette du William Coolidge. Hein. Et vous voyez donc la marionnette à droite terminée. Hein. Mais avant, vous voyez toutes les étapes, pourrait-on dire, de la fabrication de la marionnette, qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. On part, vous le voyez, d'une feuille de cuir, hein, brute, hein, et petit à petit, eh ben, on dessine, on commence à découper, on amputit de plus en plus, on peint, on met les tiges, et puis on arrive à la marionnette finale. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes les phases de la fabrication, mais je trouve que ce petit montage est assez éloquent pour comprendre quand même la complexité, hein, ouais, de ce genre de travail. De travail, hein. C'est pardon.
C'est beau.
Ah, c'est magnifique. Ouais. Et c'est vraiment, artistiquement parlant, tout à fait virtuose, hein, au niveau de la réalisation. La marionnette elle-même est donc en cuir. Elle est, vous le voyez, enfin, les marionnettes qui figurent des personnages sont articulées. Hein.
Oui.
Et vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait une hampe. Elle est en quoi, la hampe, elle ? Alors, ça peut être du bambou, ou bien tout
non,
simplement...
Non, parce que le bambou ne peut pas se travailler de cette façon-là.
Non, non.
Du bois ?
Du bois, tout bêtement. Ah, ouais. Il y a aussi quelquefois un autre type de matériau qui est utilisé pour faire les bâtons, qui servent notamment à faire travailler les bras.
Du fer ?
Non, ni ficelle ni fer. Enfin, si, il y a des petits liens qui permettent effectivement, au bout des hampes, de tenir les mains, par exemple. Un autre matériau qui vient aussi de l'animal.
De l'os ?
Pas de l'os.
Des tendons ?
Pas des tendons.
Ah, des poils ? Des
vaisseaux ?
Pardon ?
Des vaisseaux ?
Pas des vaisseaux.
Des poils ?
Non plus. La corne.
Ah, ah,
souvent, les tiges qui servent notamment aux bras sont en corne. Donc voilà, au niveau technique. Je voulais donc, avant d'aller un petit peu plus loin, vous montrer ça. Hein. C'est donc une vue de l'archipel indonésien. Ce que vous voyez là, c'est l'extrême sud de la péninsule indochinoise. Et ce que vous voyez là, c'est donc l'archipel indonésien. Et ce que vous voyez là, c'est l'extrême nord de l'Australie. Hein, je crois que vous repérez, c'est à peu près visible. Et alors, le secteur qui nous intéresse, où s'est développé le Wayang Kulit, c'est Java, qui est la grande île que vous voyez là, avec la capitale, Jakarta, hein, et Bali, qui est la petite île immédiatement à l'est de Java. Hein. Ce théâtre d'ombre, on en trouve d'ailleurs quelques autres aussi dans d'autres parties, hein, notamment à Sumatra, mais vraiment, le Wayang Kulit, son grand lieu, c'est Java et Bali. Bien. Alors, ceci étant vu, imaginez que vous avez assisté à un spectacle de Wayang Kulit. Évidemment, vous n'y connaissez rien. Vous allez devoir, pendant une demi-heure, faire comme si vous ne connaissiez rien à la culture indonésienne. Je sais bien, c'est dur. Vous connaissez tous le Java parfaitement. Mais enfin bon, faites comme si vous ne connaissiez rien à la culture indonésienne. Imaginez que vous ne parlez pas non plus du javanais. Vous ne savez donc rien. Et vous êtes pourtant invité à...
On est invité, on a le droit.
Pardon ?
On est invité, on a le droit.
Vous êtes absolument. Hein.
C'est pas
secret. Absolument, vous avez le droit. Et vous allez donc assister à cette séance, et vous allez devoir, avec les moyens qui sont les vôtres, essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qu'il faut quand même vous dire, c'est que les figures, les personnages, les marionnettes qui interviennent sont extrêmement typées, si vous voulez. Il y en a quelquefois plusieurs centaines. Hein. C'est-à-dire, durant ces spectacles, appelons-les comme ça, faute de mieux, il y a parfois plusieurs centaines de marionnettes qui sont présentées. Ça fait du monde. Hein, et vous allez devoir vous repérer. Alors, Dieu merci pour vous repérer, on a quand même des figures très typées qui vont nous permettre, nous qui n'y connaissons rien, de comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce que finalement, les thématiques abordées dans ces spectacles, je mets un petit peu des guillemets, sont des thématiques, j'allais dire, qui ressortissent des contes en général, pourrait-on dire, hein, de ces espèces de matériaux du conte que l'on connaît aussi bien en Orient qu'en Occident. Alors, essayons de plonger dans le bain. On va regarder une petite série de marionnettes et essayer de voir si on peut imaginer de quel type de personnage il s'agit. Je ne veux pas vous demander des noms. D'ailleurs, généralement, ces noms sont imprononçables et incompréhensibles. Donc, c'est réglé. On va plutôt essayer de voir à quel type de figure appartiennent les marionnettes que je vais vous montrer. Ça vous va, ça ? Bien.
Méchant.
Première marionnette.
Un méchant,
on
va dire.
Un méchant ?
Ouais, il n'a pas l'air sympa.
Il n'a pas l'air sympa ?
Oui, il rigole pas.
Il rigole pas. Donc on aurait là un méchant.
Ça fait un peu sorcière.
Pardon ?
Ça fait un peu sorcière.
Un peu sorcière, alors ce serait une plutôt qu'un.
Ah, une barbichette, non ?
On a l'impression d'une sorte de barbichette. Qu'est-ce que vous notez d'ailleurs ? Qu'est-ce qui frappe peut-être dans une représentation comme celle-là qui est présente d'un personnage ? D'accord. On s'interroge un peu sur son sexe. Homme, femme ? Bon. Mais qu'est-ce qui frappe peut-être au niveau...
La dimension des bras.
Oui, des bras très très longs. Ce qui permet d'ailleurs, en les agitant, qu'ils aient beaucoup d'expressivité.
Ah, puis des mains crochues aussi.
Crochues. Et puis ?
La tête qui s'avance comme ça.
Oui. C'est vrai.
La chevelure, elle est curieuse.
Oui, c'est quoi d'ailleurs cette chevelure ?
Un dragon.
Un dragon, on dirait.
Ah ? Il y aurait un dragon sur le monsieur ?
Ouais, une queue.
Ou c'est le monsieur qui a un dragon ?
Ah ?
Vous verriez plutôt
une coiffe,
non ? Ah, voilà. Ou alors une coiffe.
Oui.
Je pense qu'il vaut plutôt aller vers ça. Et on a quelqu'un qui a une sorte de coiffe. On a eu l'impression, dans la partie supérieure, d'une espèce de couronne,
oui, c'est ça.
Mais qui s'enrichirait de tout ce flot que vous voyez derrière. Hein. Et qu'est-ce que vous remarquez d'autre encore dans cette marionnette ?
Les jambes.
Pardon ?
Les jambes.
Oui, très écartées, hein, y a de la dynamique, on bouge.
Et le vêtement, ça fait un peu bizarre.
C'est-à-dire ?
On dirait, je sais pas, une jupe.
Oui, un vêtement qui ressemble à une espèce de jupe ou de pagne, je dirais peut-être. Hein. Hein, de pagne un peu élaborée. On a l'impression d'un pagne là. On aurait par contre l'impression d'une sorte de caleçon ailleurs. Hein. J'ose pas dire de pantacourt, mais quelque chose dans ce goût-là. Hein.
Un guerrier.
Voilà. Pardon ?
Un guerrier.
Peut-être un guerrier, effectivement. En tout cas, quelqu'un. D'ailleurs, vous avez dit qu'il avait l'air farouche. Hein. Un personnage. On sent que ça ne rigole pas, si j'ose dire. Hein. Donc on a là un personnage farouche, peut-être un guerrier. Vous avez remarqué qu'il avait cette espèce de coiffe très développée, hein, qu'il avait un vêtement, alors pas la partie supérieure, hein, son torse est à peu près nu, semble-t-il. Hein. La partie inférieure, par contre, est effectivement composée d'une sorte de vêtement pagne, hein, de culotte pagne, hein, avec là aussi des choses qui pendent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de manière générale sur le personnage et sur tout ce qu'il porte ?
C'est assez luxueux, quand même.
Voilà.
Oui, c'est raffiné.
C'est très raffiné, très luxueux. Tiens, vous n'avez pas un bonhomme qui est présenté avec des baskets et un jean. Hein. C'est vraiment un personnage qui est couvert. Vous avez vu comment est fait la coiffe, quand même ? Vous imaginez ça ? Vous avez vu cette dentelle faite dans le cuir ? Tout le blanc que vous voyez, c'est des petits trous, encore une fois. Hein.
Il a des espèces de bijoux au poignet.
Alors, il a des bracelets au poignet, il a des bracelets au bras, il a des bracelets aux pieds, il a cette coiffe extravagante, il a une espèce de collier sur le torse. C'est-à-dire que c'est totalement couvert de bijoux, de joyaux.
Hein. Un prince.
Alors, c'est peut-être plutôt un prince, effectivement. Hein. Sans doute un prince guerrier. Vous avez noté, encore une fois, son aspect assez farouche. Hein. Donc, on est là, effectivement, devant un prince guerrier. Parce que, effectivement, le répertoire de ce théâtre d'ombre bayonnais, qui s'appelle comment ?
Wayang.
Kulit. Hein. Wayang, ombre. Kulit, cuir. Hein. Le Wayang Kulit... produit un répertoire qui est un répertoire où, effectivement, les princes ont leur place, mais évidemment les bagarres aussi. Hein. En ce sens, on n'est pas très loin de nos propres répertoires occidentaux, hein, ou dans ces espèces de grands gestes. Pensez Par exemple, dans l'état de Marianne occidentaux, Marianne sicilienne, par exemple, hein, où c'est la légende, les légendes de chevaleresques médiévales qui sont à l'œuvre. Hein. On a un peu là, en Extrême-Orient, l'équivalent. Hein. Bien. On regarde une deuxième marionnette.
Une femme.
Qu'est-ce que vous faites dire?
Un petit téton.
Un petit téton. Les hommes n'ont pas de téton.
Bah si.
Attendez, faut simplifier quand même.
Mais sa tête est plus féminine.
Une tête plus féminine?
Ah mais non, il y a une moustache.
Il y a une espèce de moustache.
Ah non.
C'est du
matin.
Vous avez l'impression de plaque de métal.
C'est du cuir.
Le personnage humain?
Oui, c'est pas du métal.
Non, là c'est toujours du cuir. Mais je vois ce que vous voulez dire, c'est le côté, c'est le fait d'avoir que ce soit souvent doré, hein, qui donne cet aspect-là. On dirait presque des tôles de zinc, hein, qui auraient été dorées. Hein. Mais c'est bien du cuir. Mais c'est vrai que ça peut ressembler, quand on... C'est en photo. À quelque chose de métallique, c'est vrai. Donc, là, vous verriez plutôt une femme, encore que vous hésitez.
Bah, oui, parce qu'il y a une moustache, quand même.
Une sorte de moustache.
Ouais. C'est la femme à barbe.
Bon. Donc, on aurait une femme moustachue. Hein.
La tenue, elle est...
Oui, puis la coiffure.
Oui. La coiffure vous paraît très féminine aussi.
Oui.
Ouais.
Une disproportion entre les bras et les jambes.
Ah oui, alors absolument. Les bras sont immenses. Hein. Bah, évidemment, les bras, c'est la chose qui bouge. Hein. Mais effectivement, les bras sont toujours extrêmement disproportionnés.
Marionnette.
Ouais. Donc on aurait plutôt là une marionnette féminine. Hein. Et on voit le petit téton qui serait la marque du féminin, et une coiffure qui semble plutôt féminine, mais il y a une moustache. Pardon ?
Il y a un collier aussi.
Il y a un collier. Bon, on a vu que les garçons pouvaient en avoir. D'ailleurs, là, il est plutôt moins développé que le collier précédent.
Plus un tatouage qu'un collier.
Oui, on a presque l'impression, oui. Bon. Quel genre de femme ce serait alors ?
Il a une drôle de culotte, quand même.
Une sacrée culotte, hein ? Belle, hein ?
Oui, belle.
Bon, alors là, c'est posé sur quelque chose, donc on ne voit pas le côté ombre, hein, découpé. Enfin, c'est très découpé aussi. Que serait cette dame, si c'en est une ?
Ah, alors ça, on a eu un prince, ça pourrait être une princesse.
Une princesse ? Eh bien, allons-y pour la princesse.
Elle n'est pas très décorée.
Oui, elle n'est pas assez riche.
Pas très décorée pour une princesse.
On est bien en Extrême-Orient, mais pas en Égypte comme hier ?
Non.
Parce qu'ils sont tous de côté.
C'est vrai. Vous avez raison, tous les personnages sont de profil. Il est bien rare qu'il y en ait de face. Bah, pour le théâtre d'ombre, c'est plus ça. Il y en a de face, hein, quand même. Hein. Oui, il y a dans le voyant de coulis des personnages de face. Hein.
C'est nécessaire. Là aussi, le personnage, il a encore une moustache.
Ah oui.
Alors là, il est bien féminin, quand même.
Ah oui.
Bien...
Oui. Là, je crois qu'il y a un élément qui montre bien qu'on est devant une femme. Hein.
Ça,
là, au niveau de la poitrine, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein.
Ouais.
Mais voilà qu'elle a une moustache aussi. Ben zut, alors c'est peut-être pas une moustache, finalement.
Ben non, oui, c'est peut-être une représentation, je sais pas quoi.
De quoi, peut-être ?
Du maquillage.
Ouais. Oui, d'une espèce de bouche très, comme ça, ornementée. Effectivement, c'est très curieux. Hein. Donc là, on a vivement une femme. Bon, ça veut dire que le précédent, c'est toujours une femme ?
Ben peut-être pas.
Ben, peut-être pas, finalement. Peut-être pas, parce qu'elle est là. Précédent, qu'il n'y a pas tellement de seins, enfin, qu'il y a un sein plat, quoi. Bon, donc là on aurait une femme.
Ouais.
Ok ? Bien. Bon, c'est toujours très orné, etc. Mais on va pas le redire sur chaque marionnette. Hein. Des grands bras. Hein. Alors, ça c'est quoi ?
Un bouffon.
Qu'est-ce que vous le fait dire ?
L'aspect rond, comme ça.
Ouais.
Rigolo.
Rigolo. Donc un personnage plutôt favorable ?
Ouais.
Ouais.
Vous voulez dire entre deux, là. Enfin,
entre deux ?
Enfin, dans les histoires, quand il y en a un qui fait de la liaison entre les personnages et qui découvre la vérité.
Enfin, ouais. C'est-à-dire que s'il fait la liaison, il ferait la liaison avec qui, par exemple ?
Les animaux, non ? On dirait un animal.
Avec... Ah, il a un côté animalier, celui-là.
Ah, oui, oui.
Ouais.
Non, mais entre le prince et la meuf, enfin,
Le lien entre prince et princesse. Et c'est
au service de la mégère qui est le deuxième qu'on aurait vu là.
D'accord, donc on a là un personnage qui serait un peu un entre-deux entre les autres protagonistes, quoi. Hein, on a le prince, on a la princesse, et on a lui au milieu. Si vous aviez à définir, en voyant son physique, son caractère, quel genre de personnage c'est, ce personnage-là ?
Un bon vivant.
Ouais, un bon vivant, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Ça pendouille, hein. Voilà. Quoi d'autre ? Un bon vivant ?
Humour.
Quelqu'un qui a de l'humour, manifestement.
Il a l'air très à l'aise.
Il a l'air à l'aise.
Content de lui.
Oui, assez content.
Oui, mais s'il pousse la bouse, il devient très patelin et il peut être très hypocrite.
Ah, donc il y a une dimension d'hypocrisie.
Ah. Moi, je n'aime pas trop ce personnage.
Ah, vous ne l'aimez pas trop. Moi, je l'adore.
Alors, il y a l'une des choses qu'il peut manipuler, alors au niveau de la tête.
Ouais. Alors, non, disons que... Alors, il arrive... Alors, si vous voulez, vous avez là ça qui est en corne, d'ailleurs, vous le voyez, hein, qui permet justement de manipuler le personnage. Ça permet de manipuler ce bras-là et ça, ce bras-là. Il arrive que ce personnage, quelquefois, soit en plus doté d'un petit fil qui lui permet de faire bouger la mâchoire. Mais c'est un petit fil. Alors là, c'est pas le cas, mais j'en connais des comme ça. Vous avez... un petit fil qui part de là, qui descend là, et qui fait qu'on peut, faire qu'il bouge la mâchoire. Hein. Il y a quelques fois. Hein. Allez, bon, mais là, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, vous le sentez un peu désagréable, ce personnage. Hein. Un intermédiaire n'est pas très agréable.
Ça, c'est l'interprétation personnelle.
Oui, bien sûr. Mais elle est importante parce que ces marionnettes sont faites aussi pour que le public ressentent quelque chose par leur seul physique. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Et en fait, vous n'êtes pas très très loin de la réalité en disant ça. Oui, vous alliez dire quelque chose ?
Non.
Non ?
Il peut être hypocrite.
Oui, une dimension hypocrite.
Vous en méfieriez.
Alors, quelque part, vous n'avez pas tout à fait tort, parce que ce personnage est en fait un personnage assez droit, mais il est assez malin. Hein ? C'est un personnage malin. Alors, je dirais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est hypocrite, mais c'est quelqu'un qui peut effectivement prêcher le faux pour savoir le vrai. Hein. Donc, il est malin. Parce que sous son allure de gros bedonnant un peu maniforme, hein, ce qu'il est, en fait, c'est un personnage qui est assez bienveillant, qui va résoudre beaucoup de situations, quelquefois beaucoup mieux que les princes, qui eux sont des très bons princes, comme ceux que vous avez vus au départ, hein, qui quand même en jettent. Hein, pas mal, le prince du départ. Hein. Lui... chose quand même, hein. Mais lui, quelquefois, va permettre de débrouiller les situations que les princes n'arrivent pas à débrouiller tout seuls. Donc il est malin, il est fin. Quitte à, effectivement, quelquefois... voilà. À qui est-ce qu'on pourrait le comparer en Occident ? Pensez à des opéras célèbres, par exemple.
Oui, les valets.
Peut-être. Les valets. Moi, il fait beaucoup penser...
Le jeu un petit peu des personnages.
C'est ça. Voilà. Hein. Il fait beaucoup penser au valet de donjon, c'est Leporello, qui est ce personnage un peu dual, un rigolard, qui n'a pas évidemment la prestance de Don Juan, hein, mais qui réussit à...
Oui, à se faufiler un peu.
Voilà, et puis finalement, s'en sort toujours, finalement, mieux que son maître. Hein. Là, c'est un peu ça, lui. Hein. Voilà.
Mais c'est un théâtre muet ou c'est un théâtre avec...
Ça, c'est une question effectivement importante. À votre avis ?
À mon avis, il y a de la musique et puis il y a du chant. Ouais.
Vous avez raison. Il y a de la musique. Aujourd'hui, il y a du chant. Il y en avait sans doute un peu naguère. Hein. Mais oui, et il y a de la musique et il y a du son.
Il y a du bruitage, il y a de la musique, il y a du chant.
Hein. Donc ça fait du boucan.
Ouais,
il n'y a pas de paroles. Il y a les paroles. Si, oui, absolument. Tous ces personnages parlent. Enfin, parlent.
Faut-il savoir les raconter ?
On les fait parler. Oui, absolument. Ouais. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une très bonne remarque, effectivement. Hein.
On retrouve un petit peu le personnage du début.
On trouve un peu le personnage du début.
Ouais.
Il y a peut-être quand même quelque chose qui change un peu.
Le corps est noir.
Le corps est noir. Hum. Un peu.
Bah, il était noir rigolé, quoi.
Oui.
Il était plus chamarré.
Oui. Alors, ça dit, quand il est en ombre, on voit que du noir, si j'ose dire. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe peut-être, qui est quand même très différent. C'est vrai qu'il a les mêmes grands bras.
Il a un grand cou.
Il a un grand cou. Bon, les autres n'avaient pas des petits coups, je crois. Si.
Ah ouais. Non.
Il a une grande coiffe. Il a cette espèce de culotte extrêmement ornée. Ouais. Il a des bracelets de tous les côtés, sans parler des colliers. Par contre, il y a quelque chose, je trouve, qui change vraiment par rapport au prince.
Il a des petites oreilles.
Oui.
Il a un grand nez.
Il a un grand nez, et puis un nez, un gros...
Il est rond, son nez.
Oui, c'est un gros nez rond. Hein. Le prince, il avait un nez pointu, très élégant. Là, il a une espèce de petite trogne, quoi. Hein. Et puis, il y a autre chose, peut-être, de différent aussi.
Oui, il n'y a pas des espèces de cornes ou d'oreilles bizarres au-dessus.
Ah, tu parles de ce grand truc qui tourne là.
Non, les deux...
Ah, ça. Non, je crois que ça fait partie d'une sorte de... pseudo courant de coiffe qu'il a au-dessus de lui.
Il a quelque chose autour des épaules et du torse.
Ça ?
Il a...
Oh, c'est un sorte... Ça, ça fait quand même beaucoup penser au collier que portait le prince tout à l'heure.
La déco, hein.
Ouais. Non, une chose qui est assez différente, c'est l'œil. Le prince tout à l'heure avait un œil qui était quand même... Et les princesses, n'en parlons pas. Enfin, ce que vous appelez les princesses. Mais des yeux, voilà, beaucoup plus effilés. Hein. Le prince avait un œil un peu ouvert quand même. Hein. Heureusement, il faut qu'un prince ait les yeux ouverts. Mais là, c'est vraiment des gros yeux bleus. Hein. Ça, c'est assez différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce serait quoi alors ça, personnage noir ?
Étranger ?
Pardon ?
Un étranger ?
Étranger peut-être ?
Un méchant.
Un méchant. C'est sûr que c'est un méchant. Il n'est pas sympathique, ça, c'est un méchant. Donc, on a là un méchant. Et là.
Alors, celui-ci, il a son petit étang,
lui aussi. Ouais. Alors, c'est un garçon ou une fille ?
C'est un garçon.
Plutôt un garçon. Alors, vous remarquez que les coiffures... Hein,
elles sont géniales.
Ben, oui. Et elles ne sont pas forcément féminines, ces coiffures-là. Quoi.
Ouais.
Parce que tout à l'heure, vous posiez la question, vous rappelez, pour le deuxième, qu'on a pris pour une dame, du don d'Aïe, vraiment, ça devait être un garçon. Il avait une espèce de coiffure en corne, un peu la même qu'on a trouvée chez le prince, et même chez le méchant, vous allez voir. Donc là, on aurait à nouveau un garçon, quoi.
Alors, la couleur intervient ?
Alors, elle peut intervenir, effectivement.
Donner un caractère ou une...
Il est moins richement vêtu.
Oui, ben un peu comme le deuxième personnage qu'on a vu. On a pris pour une fille qui était finalement un garçon et qui était vêtue de manière un peu plus... Ça peut vouloir dire quoi, d'ailleurs ?
Le rang,
le statut.
Un peu un rang, un statut, peut-être un âge aussi.
Ouais.
Ah. Ouais.
C'est curieux, ils ne sont pas noirs là-bas, les gens. Si, ils ont la peau noire. Les...
Non, mais le personnage précédent, lui, était noir. Et enfin, ils sont... J'ai jamais été en Indonésie, au Java, mais ils ont quand même une peau mate. Quoi, hein. Et le personnage noir avant est un personnage méchant, donc noir, sombre. C'est-à-dire qu'il y a des personnages sombres qui ne sont pas méchants. Enfin, des personnages méchants qui ne sont pas sombres, des personnages sombres qui ne sont pas méchants. Parce que notre gros bedonnant, là, il n'était pas très clair, il est plutôt favorable, même s'il est malin. Hein.
Rouge.
Ouais.
Donc il y a un code de couleur.
Il y a quand même un code des couleurs. Il y a un dress code. Je vous en montre quelques-unes hein, pour qu'on se fasse à cette typologie, c'est en répétant les choses. Alors là, on a quoi ?
Une dame.
Hein. Finalement, quel élément qui est peut-être le seul qui permette vraiment de reconnaître la dame de l'homme ? C'est la poitrine, oui. Oui, alors d'abord quand même, les dames sont souvent plus habillées. Mais il y en a quand même qui sont torse nues. Hein. Mais la poitrine, elle est à peu près un des rares éléments immanquablement qui permet vraiment de reconnaître. Autrement, c'est assez dur. Hein. Alors souvent, les femmes ont les pieds plus proches les uns des autres. Les hommes, généralement, ils font des pas. Hein. Alors que les femmes, plus statiques, bien sûr, hein, sont comme ça. Les jambes...
Elle n'est pas pieds nus, là, les chaussées.
Oui, elle est chaussée. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais vraiment, c'est le sein généreux, si j'ose dire, qui est l'élément qui peut un peu immanquablement permettre de différencier l'un et l'autre. Ok ?
C'est le clown blanc.
Un clown blanc.
Oh, il a l'air d'être très clown. Hein. Il n'est pas bien sympathique.
Il n'est pas sympathique ?
On voit ses dents, là.
On voit ses dents, ouais.
Un vieillard, non ?
L'œil rouge.
Pardon ?
Pas un vieillard.
Un vieillard. Plutôt sympa, plutôt pas sympa ?
Ah non. Ah non, non, pas sympa.
Pas sympa.
Un vieux barbon.
Un vieux barbon. Ah ben, il faut un personnage de vieux barbon, hein, dans tous les... Donc, vous avez rien, un vieux barbon.
Hein. Ok. C'est donc quand même, hein.
Oui, 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 il tire plus ou moins la langue.
Vicieux, peut-être.
Un vicieux. Ah. Un vicieux. Bon.
Mais d'un coup, il est vraiment... on a l'impression qu'il y a un nez sous le bras.
Un nez quoi ?
Ben, j'ai l'impression qu'il y a deux têtes.
Qu'il y a deux têtes. Où est-ce que serait la deuxième tête ? La première, je la vois. La deuxième, j'ai du mal.
Ben, juste en dessous, il y aurait le nez avec juste les narines. Et puis en dessous, une petite bouche, quoi.
C'est la pomme d'Adam. Oh, c'est les rides, ça.
Mais c'est quoi, ça ? C'est le cou qui est immense ?
Les rides,
c'est
le pomme
d'Adam. Ah, oui, au niveau du cou, vous voyez une deuxième tête. Oui. Oui, non, non, c'est son cou. Voilà. Oh, il y a peut-être des petits replis. Hein.
Bah, oui.
Voilà, il y a... Tout ça est un peu... Il y a quelques bourrelets. Voilà. Donc vous auriez un personnage pas forcément très favorable, si je comprends bien, quand même.
Si, moi aussi.
Si, vous aussi. Ouais. Donc vous y verriez... Ben, c'est amusant ce que quelqu'un disait tout à l'heure, le clown blanc. Hein. Et c'est peut-être pas mal comme interprétation, finalement. Je ne sais pas si on peut dire dans la culture javanaise qu'il y a des clowns blancs. Hein. Mais le clown, vous savez, il est à la fois sympathique, rigolo, etc. Dans un personnage un peu ambigu, le clown, hein, finalement. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu le même genre de choses, quoi ? Ouais, ça nous rappellerait qui, finalement ?
Monsieur Royal.
Oui, oui. Décidément, c'est une espèce de... Mais dans les autres personnages qu'on a vus ?
Ah, ben, le bouffon.
Le gros bouffon de tout à l'heure.
Oui, oui.
Il est dans le même registre.
Un peu dans le même registre. Oui, ouais. Finalement, on aurait, si on veut résumer là les différents registres, on aurait quoi comme registre, comme grand type de figure, hein. On aurait quoi,
ben, les princes.
Les princes. Les princesses. Vous limitez avec les princes, les princesses. Ah non.
À la fin, sûrement.
À la fin, on peut espérer quand même. Hein. On peut espérer que les princes aillent avec les princesses. Sinon, c'est trop triste. Allez, on va mettre les princesses avec les princes. Les princes et les princesses, très bien.
Les serviteurs.
Les serviteurs.
Tout ce qui est bouffon.
Un peu bouffon, un peu voilà. Entre deux, voilà. Et puis, et les méchants. Hein. Ça vous va, ça ? Ouais. Chose de très tripartite, de très ternaire. Hein. Ok ? On va voir si c'est ça.
Oui, ça a l'air méchant, ça.
Oh, ça, c'est un méchant. Qu'est-ce qu'il vous montre ? C'est un méchant.
Il a l'œil rond, le nez.
Il a l'œil très rond, le gros
nez. Mais...
Il a des dents, puis il a des crocs.
Ah, ouais,
hein. Alors, il est bien habillé comme un prince, mais c'est peut-être un prince démoniaque. Hein.
Ah, ouais. Oui, parce qu'il a une sacrée couronne, quand même. Hein.
Ah, il a une sacrée couronne. Hein. Hein. Et puis, regardez sa culotte, c'est pas mal. Hein.
Ah, ouais, ouais.
Hein, ça n'a rien à envier au prince. Vous avez remarqué qu'il est rouge aussi au niveau de sa tête. Hein.
Il
est rouge de colère, absolument. Hein. Donc là, on a un vilain, un méchant, un pas gentil. Bon. Ok ?
Ah, c'est un animal ?
Ouais. Ouais.
Oh, c'est un serpent, ça ?
Oui. Bah, oui. C'est un serpent. Qui s'appelle comment, tiens ?
Oh, bon, alors, comment il s'appelle, oui ?
Eh oui, vous le savez.
K ? Oui.
Non. On en a parlé dans la première session.
Oui, le gros serpent.
Oui.
Naga.
Ouais.
C'est Naga. Ouais. C'est Naga. Ce serpent qu'on trouve dans tout l'Extrême-Orient, hein, tellement important pour Bouddha, etc. Voilà, on a là un serpent Naga, hein, avec une tête pas très serpentine, mais enfin, c'est pas le problème. Hein.
Et quel était son rôle, alors ?
À votre avis ?
Je sais pas. je sais pas, la tentation, hein, les trucs comme ça, quoi, le... Tout ce qui
a...
Ah non, il est protecteur.
Non, comme vous disiez, il est protecteur, effectivement. Hein. Naga est plutôt un... D'ailleurs, c'est lui qui a protégé Bouddha. Hein. Vous savez que c'est Naga qui, au moment, notamment, hein, de la fameuse inondation qui a permis à Bouddha d'être sauvé. Bouddha est en méditation. Il n'avait pas que ça à faire, il s'occupait de l'inondation. Hein. Heureusement, il y avait Naga. Et Naga a fait son corps, une espèce de coussin pour que... Il a protégé avec son plastron. Ça, hein. Voilà. Donc on a Naga qui est plutôt une figure protectrice. Hein. Bon, Naga, quelquefois, il peut jouer des petits tours hein, aussi. Puis c'est un dieu. Hein. Alors les dieux, c'est quand même parfois compliqué. Mais, enfin, c'est une déité, on va dire. Mais bon, il est plutôt protecteur. termine à quelques heures. Hein.
Il est noir. Il est noir.
Oui. Ouais.
Bien habillé.
Oui, mais là, il a l'œil un peu.
Oui.
Il rigole pas.
Non, il n'y en a pas beaucoup qui rigolent.
Oui,
hein. À part notre gros bedonnant tout à l'heure et puis le clown blanc.
C'est un hibou, elle.
Oui, ça, c'est une fille ou un garçon?
À votre avis?
Un garçon.
C'est plutôt un garçon. Hein.
Et un prince aussi.
C'est plutôt un prince. Ouais. Alors, il a la tête noire. Ça ne nous arrange pas. Hein.
Bah, si,
nous qui nous étions dit, bah, tout à l'heure on s'était dit que les gens qui étaient tout noirs, c'était les pas gentils, les gens qui n'étaient pas noirs, c'était les gentils. Là qu'on a un prince gentil avec une tête noire. Ça dit, il y a des princes pas gentils. Hein.
Bah, le premier, il avait bien la tête noire et on l'avait dit gentil.
Le premier, il n'était pas doré?
Non, il avait la tête noire.
Ah, peut-être, c'est possible. Je ne sais plus, la force.
C'est le deuxième qui était doré.
Le deuxième était doré, oui. Bon, donc plutôt prince. Bon, en tout cas, plutôt garçon, hein. Plutôt prince, effectivement. Hein. Il est très habillé, lui. Bon, il fait froid, quelquefois, Java. Hein.
Ah, un visage rouge. Il est noir avec un visage rouge.
Il cumule tout, lui.
Il cumule
tout, lui.
Surtout, il est habillé à l'occidental, on dirait.
Il est vraiment habillé?
Non, il est nu. Il est tout nu.
Il est tout nu.
Ah, oui.
On voit même le zizi.
Oui.
Ah oui.
Alors, c'est un gentil, c'est un méchant?
C'est un monsieur.
C'est un monsieur, ça, parce que c'est là. Là, pour une fois, il n'y a pas de problème. Pour une fois, il n'y a pas de problème.
C'est
un provocateur.
Un provocateur. Oui, on a l'impression qu'il a un masque, mais c'est sa tête, normal.
Il fait du skateboard.
Oui, on a un peu l'impression. Oui. Oui, vous remarquez d'ailleurs que très souvent, les hampes ne sont pas perpendiculaires à la marionnette. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est souvent déviée en biais. Hein. Ça peut être pratique. Pour
les... Il n'a pas les bras articulés.
Non, non, quelquefois, il y en a qui n'ont pas les bras articulés. Donc, vous le verrez plutôt favorable, défavorable, lui?
Défavorable.
Plutôt défavorable. Tiens, qu'est-ce que je vous passe là?
Une sculpture.
Une sculpture. Pourquoi est-ce que je vous passe ça en plein milieu d'un diaporama et d'une séance sur les marionnettes?
C'est l'entrée du théâtre.
Ah, l'entrée du théâtre. Ça, ce serait une idée. Tiens,
avec le gardien.
Voilà, donc on aurait le gardien de l'entrée du théâtre. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas tout à fait ça quand même. Les théâtres, on en verra tout à l'heure, n'ont pas
ça. C'est le modèle des princes.
Voilà, c'est un peu un modèle. Poussez plus loin votre.
Le modèle des marionnettes.
Voilà, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que vous avez là, à votre avis, donc c'est un relief sculpté en pierre, on est d'accord, hein, qui décore quoi, à votre avis? Vous avez dit l'entrée d'un théâtre.
Un temple.
Voilà, c'est l'entrée d'un temple. Hein. Effectivement, le personnage que vous avez là, vous l'aviez deviné, c'est un personnage qui sert à quoi? Qui fait quoi?
Il garde une entrée.
Qui garde une entrée. Et en gros, je voyais le chambranle d'une porte, hein. C'est un personnage qui garde une entrée. Ça vous rappelle quoi, d'ailleurs?
La marionnette du démarrage.
Voilà. Hein, où il y avait justement deux figures farouches qui gardent l'entrée. Hein. Autrement dit, le fait que là, nous voyons ce relief... qui est à l'entrée d'un temple, un temple dont je vous précise qui date du XIVe siècle. Hein. On est là autour de 1360 à peu près. Hein. Et ça vous a tout de suite fait penser aux marionnettes. Qu'est-ce que ça vous dit ou que ça vous redit? Vous l'avez un peu exprimé déjà.
Parce que le thème des marionnettes, c'est un thème religieux peut-être.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une perméabilité entre le langage religieux et le thème des marionnettes. Mais ça, vous l'avez déjà ressenti tout à l'heure.
Oui,
hein.
On l'avait dit.
Voilà, vous l'avez dit. Vous avez bien montré que ce théâtre, ce n'était pas un théâtre de marionnettes comme notre guignol, si vous voulez. Hein. Ouais. Notre guignol n'est pas trop religieux. Hein. Mais un théâtre de marionnettes qui a une dimension religieuse. Hein. Ouais. Donc il y a une perméabilité, je dirais thématique, entre la religion, voilà là un gardien d'une porte d'un temple, et le théâtre de marionnettes. Ouais. Hein. Donc le théâtre de marionnettes a vraiment une dimension religieuse. Bon. Est-ce qu'il y a d'ailleurs que les thèmes, il y a les histoires qui passent de la religion au théâtre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que simplement, quand vous regardez ça, Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui montre des liens entre le théâtre de marionnettes et la religion et l'inverse ? Hein, on a vu que les thèmes, les histoires étaient les mêmes. Mais est-ce qu'il y a pas autre chose qui est pareil ?
La guerre, non ?
Ben ça, ça fait partie de l'histoire.
Le décor de...
Oui, c'est-à-dire...
Ils sont, on va dire, habillés pareil, oui.
C'est ça. C'est-à-dire que là, finalement, vous avez l'impression, grosso modo, hein, d'avoir une marionnette en pierre, quoi. C'est-à-dire que non seulement les thèmes sont les mêmes, hein, c'est les mêmes histoires, si vous voulez, mais en plus, le style est le même. C'est-à-dire que là, vous avez une figure sculptée. C'est pas une marionnette, hein. Mettez ça, portez ça derrière un écran, vous aurez un peu de mal, hein. En plus, on verra rien, hein. Mais on voit que dans la sculpture et dans les marionnettes, on a un style très comparable, très identique. Hein. On a là quelque chose qui est plus ou moins le modèle des marionnettes, à moins que ce soit les marionnettes qui soient le modèle de ça, ou que les deux marchent ensemble. Hein. Bon, ce théâtre de marionnettes, et là, les marionnettes que je vous ai montrées, elles datent des 19 ou même début du 20e siècle. Hein. C'est encore un art très vivant, le Wayan Kulit à Java, hein, et à Bali. Mais on sait que cet art des marionnettes existe depuis... en gros, le Moyen-Âge, si vous voulez. Hein. Donc c'est très ancien, vous voyez ce que je veux dire. Donc les choses, les deux sont construites ensemble, en quelque sorte. Donc c'est pas étonnant de voir là cette figure qui ressemble beaucoup aux marionnettes, parce que les deux ont monté ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. On n'a qu'une marionnette pétrifiée, finalement. Alors, je vous passe simplement la diapositive suivante avec la légende. Hein. Ça, ça vient d'un... C'est donc le décor d'un temple, hein, qui est à Java. Et ça représente un gardien de porte, hein, un Dvarapala. Et donc, vous avez là, encore une fois, l'équivalent de ce qu'on trouverait, ce qu'on a trouvé dans les marionnettes. Je voulais vous montrer ça aussi, qui est un autre décor de ce même temple. Hein. Est-ce que ça vous suggère quelque chose à nouveau
On disait les méchants.
Pardon
les
oui.
Celui qui avait les masques de
oui, oui. Finalement, on a un peu la même chose qu'à côté. On a toujours l'impression de marionnettes en pierre, si j'ose dire. Hein. Effectivement, là, on voit une sorte de combat entre un gentil et un méchant. Hein. D'ailleurs, ce combat-là, il est tiré d'une histoire qu'on appelle le Ramayana.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oh, c'est une légende.
C'est une légende, oui.
D'Inde.
D'Inde.
Avec, oh, c'est énorme.
Énorme. Donc, le Ramayana, c'est la légende de qui, d'ailleurs, le Ramayana ?
Rama.
La légende de Rama. Hein. Rama, c'est un dieu de l'Inde. Le Ramayana, c'est l'histoire de Rama, un dieu indien. Voilà. Y a d'ailleurs en Inde une autre histoire dont le titre est très connu et qui est un peu l'équivalent du Ramayana, mais en plus long encore. Parce que le Ramayana, c'est long, mais c'est assez court par rapport à l'autre histoire. Très célèbre, qui est alors encore plus longue, une sorte d'histoire fleuve. Ça vous dit quelque chose ?
Non, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas.
Le Mahabharata.
Ah oui,
hein, le Mahabharata. Le Mahabharata, c'est une sorte d'histoire énorme, hein, et le Ramayana est une autre histoire, tout aussi indienne que le Mahabharata. Le Ramayana est également une histoire, mais plus courte que le Mahabharata. Donc, vous avez là, à Java, des temples, un théâtre, qui représente des histoires venues de... d'Inde.
Ça fait quand même très loin.
Ça fait quand même très loin. Donc, qu'est-ce que ça vous suggère ?
Des guerres, des invasions...
Oui, ou encore plus simplement,
pardon.
Voilà, les religions se déplacent. Hein. Le bouddhisme, son origine, c'est où ? C'est l'Inde. Hein. Et le bouddhisme va finir jusqu'au Japon, hein, et jusque dans ses territoires, d'ailleurs, aussi. Hein. Voilà. Hein. Donc, finalement, il n'y a pas à être surpris de voir que la religion hindouiste, hein, va aussi partir d'Inde et s'élever partout. L'Indonésie, aujourd'hui, majoritairement, elle est de quelle religion ?
Musulmane.
Exactement. L'Indonésie aujourd'hui, c'est musulman. Hein. Qu'est-ce qui est. Alors, vous pouvez m'expliquer. Voilà un territoire qui va adopter une religion indienne, qui sera d'ailleurs pas non plus perméable au bouddhisme, qui de toute façon vient d'Inde aussi, mais qui aujourd'hui est musulmane, et c'est quoi tout ça? Et le théâtre que je vous ai montré, il est au niveau de la religion d'inspiration quoi? Puisque les pièces de théâtre qu'on a vues, du voyant de Kulit,
bouddhiste ou hindouiste plutôt,
hein. On n'a pas vu de Bouddha, hein. Donc il est plutôt hindouiste. Donc c'est le voyant de Kulit, c'est un théâtre qui est basé sur l'hindouisme. Hein. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que Java et l'Indonésie étaient de religion hindouiste, a intégré des éléments du bouddhisme. Tiens, dans les territoires dont on a déjà parlé dans ces séances, vous ne connaissez pas un territoire qui a comme ça mélangé le bouddhisme et l'hindouisme?
Au Pakistan
Alors, c'était plutôt le bouddhisme et les religions occidentales, enfin méditerranéennes. Il y a un autre territoire qu'on a vu qui a vraiment mélangé et l'hindouisme et le bouddhisme.
Le Cambodge.
Rappelez-vous, hein, j'avais Herman Sepp, dont on a encore reparlé l'autre jour, et quelqu'un qui a, au XIIe siècle, imposé en territoire khmer, au Cambodge, le bouddhisme sur un territoire hindouiste, mélangeant ainsi les deux. Ben, là, on a un peu la même chose en Indonésie. Sauf qu'au XVIe siècle, des conquêtes vont amener la religion musulmane en Indonésie. Maintenant, l'Indonésie est musulmane. Mais on continue à faire du théâtre hindouiste. Matinée de bouddhisme. Est-ce que vous pouvez me citer, dans les marionnettes qu'on a vues, un élément qui témoigne de ces dimensions bouddhiques? On l'a vu il y a deux minutes.
Bouddhique. L'espèce de personnage roux, là.
Non.
Le serpent.
Le naga. Rappelez-vous, le naga, c'est lui qui a protégé Bouddha. Oui. Le serpent naga, il est très bouddhiste. Très bouddhique, si vous voulez. Hein. Alors que le reste du répertoire, du Vayam Kulit, c'est un répertoire hindouiste. Donc vous voyez qu'on a une sorte de melting pot de culture. Voilà une religion hindoue dans laquelle s'installent des éléments bouddhiques, sur lesquels se ramène, si vous voulez, la culture islamique, et on continue quand même à faire du théâtre hindouiste.
Mais là, on ne voit pas trop d'islamisme.
Pas rien du tout, absolument rien, tout à fait. Donc c'est assez marrant de voir, parce qu'aujourd'hui, hein, depuis le XVIe siècle, le Vayam Kulit continue en territoire musulman, alors que c'est des histoires hindoues. Vous voyez ce que je veux dire?
Hein.
Donc on a là une espèce de melting pot tout à fait étonnant. Alors, on corrige?
Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit là. Vous avez dit, c'est les oiseaux qui ne sont pas des oiseaux, qui sont en haut là.
Ah, les chauves-souris?
Oui.
Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Je pense que c'est des chauves-souris. Hein. Les chauves-souris ont, dans les religions orientales, un rôle particulier, hein, plutôt favorable d'ailleurs. Hein. Donc je pense que ce sont des chauves-souris.
Et c'est le Covid.
Pardon?
Et le Covid.
Absolument.
Ouais.
Pas forcément. Enfin, c'est... Disons que c'est pas simple.
Le nom des chauves-souris en chinois est homophone de fortune. Donc c'est pour ça qu'elles sont...
Elles sont favorables. C'est le même mot.
C'est le même son.
Ah, même son. Donc vive la chauve-souris. Voilà, alors là, vous aviez raison, hein. Vous avez raison aussi, il est brun. Mais ce personnage, c'est un prince. Hein. Alors, voilà son nom, hein. Je ne le prononcerai pas, parce qu'il y a... En plus, on a des centaines de princes. Voilà. Mais c'est bel et bien un prince, hein, on l'a vu tout à l'heure. La deuxième que l'on a vue, c'était aussi en fait un prince. Hein. Alors ça, ce prince-là, à Journa, il est important. C'est un des... En fait, si vous voulez, ces histoires racontées par le Vayam Kulit... C'est pas très compliqué, c'est des princes qui se battent entre eux. On croirait du Shakespeare. Hein. Il y a les gentils princes, les méchants princes, ils se battent entre eux. Au milieu de tout ça arrivent des dieux, alors des dieux gentils, des dieux mauvais. Hein. Et puis au milieu de ça, il y a ces figures entre les deux, comme le gros bedonnant, qui vont essayer de faire que les bons princes soient vainqueurs à la fin. C'est en gros toujours ça. Le Mahabharata ou le Ramayana, c'est ça pendant des heures et des heures et des heures. Voilà. Donc c'est une espèce de structure ternaire. Voilà. En tout cas, ça c'est un prince, c'est bel et bien un garçon. Ça nous avions vu, c'est une princesse. Hein. Les déesses sont présentées de la même manière. Vous aurez peut-être noté que quelquefois, c'est ça qui permet de savoir de qui il s'agit, il y a un petit cartel entre les pieds des personnages, je vais vous montrer sur une diapositive, qui permet de savoir de qui il s'agit. Il y a le nom qui est marqué. Ça aide bien. Alors ça, ce personnage qui est à moi, mais très très sympathique, il s'appelle Sémar. Et Sémar, c'est un personnage vraiment important. Vous l'aviez bien vu. Hein. C'était intéressant parce que finalement, en voyant les personnages, je crois que vous avez bien caractérisé. Hein. Sémar, il appartient à cet entre-deux. C'est un petit malin, un petit gros malin, bon vivant, qui bouge bien, qui, etc. Qui a en effet un caractère plutôt joyeux, mais qui peut être un peu malin, comme ça, un peu roublard. Il n'est pas toujours très franc du collier. Hein. Enfin, n'empêche que c'est lui qui arrange tout ou presque dans les situations. En plus, il a trois fils, dont le grand dépendeur d'Andouille, la tête blanche que vous avez vue tout à l'heure. Vous vous rappelez le clown blanc? Eh bien, c'est l'un des fils de Sémar. Sémar, vous le trouvez dans toutes les classes. Que quelquefois, il y a des théâtres avec plus ou moins de marionnettes, si vous voulez. Hein. Il y a toujours quelques princes, dont celui que je vous ai montré précédemment, qui apparaissent. Et Sémar, il y est toujours. Sémar, en plus, quel genre de population il représente dans ces... Voilà, le peuple. Hein. Sémar, c'est vraiment la figure populaire. Parce que le reste, c'est des princes, des princesses, bon, ok, ou des dieux, des démons, oui. Enfin, le peuple, eh ben, c'est Sémar. Sémar et ses fils. Ok. Voilà, donc ça, ce personnage s'appelle Gatok Kaka, ça ne s'invente pas, c'est un démon. Et ça, on l'avait bien vu tout à l'heure. OK ? Voilà, voilà un prince. Hein. Enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je reprends pas. Une princesse, poitrine, on en a parlé. Hein. Ça va, on a encore 10 minutes, c'est bien. Et voilà, Petrouk. Petrouk qui est qui, donc ?
Le fils
de Sémar. Voilà, hein. Donc, cette figure populaire, mais, encore une fois, maligne, bienveillante. Hein. Il y a un peu... Lui, c'est un peu le grand de la bande. Hein. Son père est un petit gros, lui, c'est un grand gigolo. Quoi. C'est le Avrel du... Hein, voilà, c'est une espèce de grand personnage un peu dégingandé, un peu ridicule. Voilà. Hein. Mais et vraiment, Sémar et ses trois fils, ils arrangent beaucoup de choses. Tiens, là, vous voyez l'emplacement où il y a marqué le nom du personnage. Donc ça, on est bel et bien devant un démon. Hein. Voilà.
Et tout ça conservé en Europe
Beaucoup, oui. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a eu tellement. Ça a eu beaucoup de succès en Europe, ces œuvres-là. Alors, en plus, les œuvres que j'avais, dont j'avais des images, étaient vraiment des œuvres. Mais il y a à Jakarta un musée du Vaillant Kulit. Hein. À Jakarta même, il y a un musée consacré à cet art-là. Mais en Europe, ça a eu d'autant plus succès que les Hollandais qui ont conquis l'Indonésie, hein, en ont ramené beaucoup. En plus, ces objets sont des objets qui s'usent, qui s'abîment, et qui, une fois qu'ils sont abîmés, il faut les remplacer. Donc on les remplace beaucoup, si vous voulez. Donc les vieilles, elles étaient souvent reléguées et puis vendues à des touristes ou à des gens extérieurs. Voilà notre naga, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà effectivement un prince héroïque, alors lequel il n'est pas marqué, pas. Et voilà un personnage démoniaque, à nouveau, on l'a vu tout à l'heure. Ok ? Bon, je ne reviens pas dessus, on a beaucoup parlé dessus, on va. Je voudrais maintenant vous préciser pour terminer deux, trois petites choses. D'abord, là, je vous montre une autre marionnette. Et quelle est la différence par rapport aux autres ?
Elle est en bois.
Vous voyez tout de suite la différence.
Oui, on voit le relief.
Voilà. Alors, en fait, à Bali et à Java, il existe ce marionnette, cet art de la marionnette qu'on appelle le Vaillant Kulit, qu'on a vu, hein, ombre de cuir, mais il y a également ce qu'on appelle le Wayang Klitik, qui correspond à des marionnettes en bois. Visiblement, d'ailleurs, c'est un art qui s'est développé un peu postérieurement au Wayang Kulit. C'est-à-dire que ça, cette méthode-là est plus tardive. Mais on y retrouve, là, qu'est-ce que vous y voyez ? Vous y voyez, vous savez, là, on a le prince, le jeune prince dont on a déjà vu.
Oui.
Vous vous rappelez de ça ? Alors, il y a également un autre type de théâtre que vous voyez là, qu'on appelle le Wayang Beber. Et là, c'est quoi ?
C'est une fresque.
Oui.
Une tapisserie.
Alors, c'est pas une tapisserie, c'est de la peinture sur papier, hein. Mais comment est-ce que ça se passe, là, si j'ose dire?
Ça se déroule.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi du théâtre, c'est aussi du théâtre d'ombre, hein, Wayang, hein, sauf que là, c'est des espèces de bandes de papier qui passent d'un rouleau à un autre, il y en a des quantités, et elles passent derrière un écran. Au lieu d'être des marionnettes, c'est la bande de papier qui passe. Ok ? Donc ça, c'est une bande de papier, et vous pouvez en avoir des centaines. D'accord ? Hein ? Quelque part, c'est plus pratique, mais ça a eu beaucoup moins de succès. Et puis alors, il y a également ça. Le voyant Golek. Et là, la différence, c'est que c'est quoi ?
Un personnage.
Voilà, c'est vraiment des personnages, là, en rhombos, si vous voulez. C'est plus du tout du théâtre d'ombre. Hein. On n'est plus du tout dans le théâtre d'ombre, et on n'est plus dans des personnages en deux dimensions, mais bien en trois. Hein. C'est de la rhombos. Et là, c'est aussi un art qui est arrivé un peu plus tardivement. Donc vous voyez que dans cet archipel, il y a comme ça plusieurs types de théâtre qui se développent. Le voyant Kulit, le voyant Klitik, le Wayang Bébert et le Wayang Golek, dont vous voyez ici un exemple. Ok ? Alors pour terminer, puisqu'on a encore 5 minutes, ouais, je voulais vous montrer ça. Parce qu'on a vu des marionnettes, on a, je pense, compris quel était le répertoire, hein, le répertoire hindou, matinée de petites constellations bouddhiques, alors qu'on est depuis le XVIe siècle en territoire musulman, bien. On a vu quels étaient les personnages de ce répertoire, les figures, on en a beaucoup parlé. Maintenant, voyons peut-être pour terminer le contexte dans lequel tout ça se déroule.
Un théâtre.
Un théâtre. Donc voilà un théâtre.
Et alors, qu'est-ce Philharmonique devant ?
Exactement. Hein.
Oui.
Alors, c'est, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, hein, ouais. Il y a donc un accompagnement musical.
Et chanté,
hein,
aussi.
Alors, chanté, à vrai dire, aujourd'hui, oui. Je ne suis pas sûr que ça ait été le cas traditionnellement. D'ailleurs, vous voyez que là, cette photographie date de la fin du XIXe siècle. Vous voyez uniquement des musiciens, et il n'y a, a priori, pas de chanteur ni de chanteuse. Dans les bouquins que j'ai lus là-dessus...
Alors, c'était raconté, ou c'était que...
Alors, à votre avis, comment ça se passait ? Qu'est-ce que vous voyez d'autre, là, qui vous permet de comprendre le déroulement de cette
affaire ? C'est l'action qu'il y a derrière avec les marionnettes.
Voilà. Donc, vous avez là, effectivement, l'écran... Là, vous avez les marionnettes. Vous voyez qu'on n'a pas qu'une. Hein.
Non, il y en a beaucoup.
Vous avez vu, il y en a des centaines. Hein. Voilà. Vous avez là l'orchestre qu'on appelle le gamelan. Hein, le gamelan, on a deux ici, c'est l'orchestre. Bon. Mais à part ça, qu'est-ce que vous voyez d'autre ?
C'est en plein air.
C'est en plein air.
L'écran blanc.
Un grand écran blanc.
Alors on est derrière les...
Alors vous êtes où, vous ?
De l'autre côté.
De l'autre côté. Donc vous êtes derrière. Ok ?
C'est qui les anime ?
Pardon ?
Pas
forcément. Alors vous êtes derrière ou là avec...
On est derrière l'écran.
Donc vous êtes derrière l'écran, mais c'est obligatoire, ça ? Pardon ?
La marionnette se détachait sur le blanc ?
Ouais.
Ça dépend si la lumière tombe sur le...
Oui, parce que... Ouais, ben voilà...
Eh bien, à vrai dire, il y a les deux.
Voilà.
C'est-à-dire que dans le théâtre de Wayang Kulit traditionnel, il y a d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes. Encore, on ne peut pas les mélanger. Hein.
Mais alors, on ne peut pas être sûr qu'ils voient de la couleur, les autres n'en voient pas.
Voilà. C'est-à-dire que les hommes sont du côté du gamelan, sont là où nous sommes. Alors, mesdames, vous sortez parce que vous devez aller dans la salle derrière.
Voilà.
D'accord ?
Comme d'hab.
Comme d'hab. Hein. C'est-à-dire c'est vous qui avez les ombres, nous, on a les couleurs. Et toc, hein. Voilà. Alors ça, c'est dans le Wayang Kulit traditionnel, qui se fait souvent d'ailleurs dans des maisons. Hein. C'est-à-dire c'est pas un théâtre qui est un théâtre. Hein.
Oui, c'est un stage des gens.
Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait que les hommes sont à l'extérieur, alors que les femmes et les enfants sont à l'intérieur de la maison. Vous voyez ?
Voilà.
C'est déjà ça. Alors, on a vu qu'il y avait un orchestre, on a vu qu'il y avait un grand écran et des quantités de marionnettes, vous les voyez de chaque côté, il y en a peut-être là au moins 200, hein, tels que vous les voyez posés là. On a vu qu'il y avait les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre.
Oui, les marionnettes. Qui c'est qui... Oui, voilà, les marionnettes.
Les marionnettes.
Ils sont où ?
Regardez la photo.
Il y a un trou, là.
Ah, ils sont dans une forêt.
Non.
En haut ? Ils sont derrière chaque marionnette ?
Non. Ils sont où
sur la galerie?
Non.
Dessous.
Dessous, mais dessous. Regardez la photo.
Il y a un fossé.
Pardon? Ah, moi, je ne vois pas le fossé.
On voit des têtes.
Des quoi? Non.
Ils sont où?
C'est des ficelles.
Regardez bien.
Les marionnettes, elles bougent ça, voilà.
Il y a quelqu'un devant.
Il y en a un qui
tourne
le dos.
Oui.
C'est lui
qui anime tout.
Il y a un marionnettiste. Oh. On n'a pas 50. C'est le Dalang. Le Dalang, c'est lui qui va actionner toutes les marionnettes.
Mais il a du boulot.
Il a du boulot. D'autant qu'il faut savoir que les représentations traditionnelles du Valiant Kulig commencent à 7h, je crois que c'est même 7h30 en fin de journée, et durent jusqu'au lendemain matin à 6h. Il faut donc que le gars il tienne pendant tout ce temps-là à manœuvrer des dizaines, parfois des centaines de marionnettes.
Il doit y avoir tout un mécanisme alors.
Il n'y a pas de mécanisme. Qu'est-ce qui, à votre avis?
Et il faut faire arriver les marionnettes comment?
Alors, il a souvent quand même, d'abord il a le bras long, si j'ose dire. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même des moments, des intermèdes où le gamelan joue. Par exemple, la première heure du spectacle est à peu près entièrement consacrée à la musique. Après, la deuxième heure, c'est le Dalang qui va, en gros, au niveau de du texte, parler du contexte, qui va dire « voilà de quoi je vous parlais ». Et après, ça va être l'intrigue qui va se terminer dans les trois dernières heures par le dénouement. Vous voyez, tout ça est extrêmement codé. Le Dalang, comme vous disiez, il a du boulot. Hein.
Mais il manipule plusieurs marionnettes à la fois.
Absolument.
Ça veut dire qu'il n'y a pas deux marionnettes en même temps
Si, il y en a plusieurs. Il a deux bras. Donc il... Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que il a devant lui ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un tuyau.
Oui, on voit deux tuyaux même. Un, deux. À votre avis, ils servent à quoi ces tuyaux?
Planter les marionnettes.
Exactement. Ils servent à planter les marionnettes. D'ailleurs, les marionnettes sont là, reposant sur les tuyaux, vous voyez. Et donc, il va pouvoir parfois planter les marionnettes. Donc, il en plante une, il peut donc jouer avec deux autres. Il peut en planter trois ou quatre, et puis il va jouer avec les deux autres.
Alors, il se lève?
Alors, il se lève, il peut se lever pour aller chercher une marionnette, etc. Mais il est souvent aussi, quand même, assis en tailleur, comme vous le voyez là. Il faut voir que ce n'est pas non plus une représentation, j'allais dire... comment dire, bien lissé, comme on l'aimerait en Occident. Hein. Bien, vous le voyez là, hein. Vous remarquez qu'il y a l'écran, et il y a déjà les marionnettes en réserve de chaque côté. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on les voit alors même qu'elles n'interviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On voit des espèces de tas sur le côté. Vous voyez, ouais. Tout ça est un peu... voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un écran tout blanc avec une marionnette et une autre qui arrive. Il y a toutes les marionnettes qui sont là, puis certaines sont enlevées, vont intervenir, vont repartir. C'est très, très physique. Hein. D'autant que le Dalang, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il manie les marionnettes. Il doit un peu connaître le répertoire. Hein, parce qu'il raconte l'histoire. Et puis, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ne fait pas que raconter l'histoire. Il fait quoi encore avec sa voix? Il peut chanter. Mais surtout, il...
Il fait des bruits.
Il fait des bruits. Alors, quelquefois, il y a également, pas loin de lui, des lames métalliques qui lui permettent, par exemple, s'il y a du tonnerre, de faire du tonnerre. Enfin, voilà. S'il y a un dieu qui apparaît, il fait bing, bing, bing. Donc, ça, hein, ça ajoute, si vous voulez. Hein. Mais c'est lui également qui fait les voix de personnages. Et il n'y a pas intérêt à ce que un démon parle de la même manière qu'un prince. Donc, il faut à chaque fois, pour chaque type de personnage, changer de voix. Vous voyez? Donc, le Dalang n'est pas un... Un Mickey, si vous voulez. Hein. Le Dalang est un personnage très important, très vénéré, hein, parce qu'il a un savoir. Tout ça demande des études. Ouais, voilà, vraiment une très grosse... c'est vraiment une performance, au sens réel du terme. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est une photo qui date de la fin du 19e, hein, de 1896. C'est intéressant ce qu'on voit là. Manière traditionnelle de faire du Wayang. Ça, c'est la manière actuelle. C'est à peu près la même chose. Hein. Parce que vous voyez qu'il y a un cœur féminin à droite. Ça, dans en tout cas ce que j'ai lu, ça n'existait pas traditionnellement. Je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup ajouté, peut-être pour mettre au Dalang peut-être un peu plus tranquille. Hein. Et puis je pense qu'aussi, il y a une dimension touristique derrière ça. Je pense que c'est une évolution assez récente.
Et ça dure toute la nuit, là aussi ?
Ça dure toute la nuit. Ben, ça peut durer toute la nuit. Je ne serais pas étonné, moi je ne suis jamais allé là-bas, hein. Je ne serais pas étonné qu'on ait fait des aménagements, tu vois. C'est-à-dire qu'on trouve maintenant des moyens de coulisses un peu plus réduits et qui aient lieu simplement.
Mais là, on voit sur scène la forme qu'on a vue en première.
Oui, absolument. Image. Vous voyez, hein.
Ouais.
Il y en a même plusieurs. Vous connaissez notre gros Bedonnant, là, et son grand-fils, dépendeur d'Andouille ? Hein, vous le connaissez, là, hein ? Hein, vous les voyez, là, hein ? Ils sont là. Oh, il y a un élément également très, très important qui figure toujours là, c'est la lampe, vous voyez ? Ce que vous voyez là qui pend, c'est la lampe. Parce qu'évidemment, quand vous êtes de l'autre côté, il faut que les marionnettes, je crois que j'ai mis une photo, d'ailleurs, hein. Alors, ben, là, je vous montre ça, qui est, enfin, qui montre bien, là. Là, on est en plein boom. Hein. Hein, vous voyez le Dalang avec ses marionnettes. Hein. Le reste des marionnettes sont sur le côté. Vous voyez, c'est un peu le fourbi, si j'ose dire. Hein. Il y a la lampe. Alors, traditionnellement, c'est une lampe à huile. Là, c'est un spot. Hein. Mais vous voyez, ça y va. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des trous dans les marionnettes, quelquefois. Parce qu'ils y vont, les gars. Hein. Moi, pour avoir vu des vidéos enfin, de ces spectacles, c'est... Voilà, les marionnettes qui sont... Qui en est tellement fragile, je peux vous dire que ça y va. Hein, ça... Donc ça cogne, quoi. Hein. D'autant que c'est souvent des histoires de combat. Donc c'est dynamique. Et voilà ce que voient les femmes et les enfants de l'autre côté.
Ah, c'est sûr, c'est beau, ça.
C'est beau, hein.
Ah, oui.
Et vous reconnaissez, hein, une autre marionnette, porte, etc. Hein. Voilà.
C'est ça, la musique.
Voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. À travers, vous voyez, une séance qui nous a permis de voir autre chose, c'est-à-dire un art peut-être plus populaire, hein, celui du voyant de coulisses. Je vous montre là encore une ou même des images. Vous voyez ces quantités colossales de marionnettes. Hein, il y en a des tonnes. Hein. Dans les voyants, il y a vraiment des... Il y a 200-300 marionnettes. Enfin, le Dalang, il a plein de marionnettes à son niveau. Et encore, je ne vous ai pas montré, il y a aussi... on a vu le Naga, mais il y a souvent des marionnettes représentant des animaux, des éléphants, des buffles, des grenouilles, des crocodiles, toutes sortes d'animaux divers et variés. Enfin, on s'est arrêté sur les types, je dirais, principaux. Et je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Et pour terminer, je vous montre cette vue-là, qui, je crois, montre bien, encore une fois, l'organisation d'un Wayang. Là aussi, vous voyez, les théories et non-neuronales, c'était toujours le Dalang qui est au milieu, qui, tout seul, va quand même assurer le job de manœuvrer les marionnettes, hein. C'est vraiment une expertise de fait. Vous voyez bien la lampe au-dessus de lui. Hein. Tout ça est assez clairement visible. Voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui parce que je crois que c'est un bon exemple de pénétration de la culture savante et de la culture populaire, si vous voulez. Hein. L'Orient, c'est pas comme l'Occident, hein, simplement les grands monuments sculptés, les belles peintures superbes. C'est également cette manière dont... Parce que le voyant est ultra populaire. Hein, dont je dirais l'art se diffuse dans la société. On a les mêmes choses en Occident. Voilà.
Merci.
Ben, je vous en prie. Bravo. Et puis donc, ben, bravo à vous. Et puis, ben, on se voit pour une dernière séance, j'espère ici.
Le 25
mai, normalement, à la fin du mois. Voilà. Hein. Ouais. Dernière séance pour ce cycle, bien sûr. Hein.
Espérons.
Eh oui.
Yes, yes.
On y croit.
On va y croire.
Et la ville à la caméra d'Arma, c'est pas.